France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Deuxième épisode de notre série sur le libéralisme. Ce matin, la figure majeure du penseur Friedrich Hayek, qui a ressourcé la pensée libérale au XXe siècle, dans un débat avec le philosophe John Rawls. Né en 1899 à Vienne, Friedrich Hayek fait des études de droit et de sciences politiques à l'école du grand représentant de l'école autrichienne d'économie, Ludwig von Mises. Il se fait tôt connaître à l'étranger. Dès 1931, Hayek est invité puis recruté par la fameuse London School of Economics. Ainsi fuit-il l'expansion européenne du nazisme avant de devenir, après la guerre, professeur à l'université de Chicago. Ce que Hayek récuse, c'est l'idée qu'on puisse décider des bonnes règles et des mesures justes depuis un point de vue surplombant la société, celui notamment de l'État. Cette supposée vision du tout n'est, je le cite, qu'un constructivisme illégitime et ne conduit qu'à un mirage de justice sociale. Seuls les échanges divers et non contraints au sein de la société permettent d'atteindre, au titre de résultat, une situation bonne pour tout le monde via la liberté de produire et l'ajustement des prix. Cependant, lorsque Hayek fait paraître dans les années 1970 les trois volumes de droit, législation et liberté, il a en face de lui un interlocuteur de son niveau, John Rawls, dont l'ouvrage Théorie de la justice, paru en 1971, prétend au contraire définir des principes de justice premiers, antérieurs aux échanges et correcteurs à leur égard. Cette discussion entre deux cerveau impressionnant est une scansion majeure pour la pensée libérale dans la seconde moitié du XXe siècle. Bonjour Thierry Aymard.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en sciences économiques à l'Université de Lorraine et très fin connaisseur de la pensée de Friedrich Hayek. Bonjour Valérie Charolle.
Bonjour.
Vous êtes docteur en philosophie et chercheuse au laboratoire d'anthropologie politique à l'École des hautes études en sciences sociales. Vos travaux portent sur l'individu moderne, appréhendé à travers l'économie, la quantification et la technique. Et bonjour Patrick Savidan.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités en philosophie, désormais aussi en sciences politiques, en poste à l'université Panthéon-Assas à Paris. Vous dirigez la revue Raison publique. La question des inégalités occupe depuis longtemps vos recherches et vous connaissez extrêmement bien la pensée de John Rawls et la discussion entre lui et Hayek. Vos travaux, chers invités, tous les trois, sont précisés sur le site de notre émission. Friedrich Hayek, eh bien, je vous propose de l'écouter d'entrée de jeu.
Ce dont nous avons besoin, c'est que les gens soient obligés de faire ce qui est bénéfique pour les autres, indépendamment du mérite qu'il y a derrière ou non. L'idée même que la société peut être amenée à se comporter selon les conceptions humaines de la morale individuelle est complètement erronée. Nous ne pouvons pas accepter le fait que le concept de justice ne peut pas s'appliquer à la société.
Mais ne pouvons-nous pas récompenser les gens dans notre société, peut-être pas selon l'échelle de leurs vertus, mais en tout cas selon l'échelle de leurs besoins ?
Non. Ce que nous pouvons, mais seulement dans une société riche, c'est d'assurer à tous un certain minimum en dessous duquel personne n'a besoin de tomber. Au-delà, nous devons utiliser le système de signification des prix comme indicateur de ce que les gens devraient faire, et cela n'a rien à voir avec les mérites ou les besoins individuels. En effet, leurs besoins seront probablement davantage satisfaits s'ils sont constamment dirigés là où leurs efforts apportent le plus grand bénéfice à leurs semblables. Alors que si vous essayez d'évaluer les récompenses en fonction des besoins, ce n'est tout simplement pas possible en général. Cela ne conduit qu'à privilégier certaines personnes qui ont le pouvoir politique.
L'idée du juste est une chose trop privée, trop singulière, chacun la sienne. Est-ce bien cela le problème, Thierry Aymard, pour Hayek ? Et est-ce que c'est ce problème qui fait qu'il ne faut pas s'aventurer sur ce terrain ? Il faut laisser les gens libres de leurs transactions. Le juste, si on doit l'appeler comme ça, ce sera le résultat.
Le juste pour Hayek, c'est plutôt la procédure que le résultat.
Oui.
Vous avez raison, et la citation de Hayek, son interview le montre bien. L'idée de base, c'est que si la société obéit à un ordre spontané, dirigé par aucune autorité précise, qu'elle soit centralisée ou même décentralisée, on ne peut pas effectivement attribuer les résultats de cette société à une responsabilité de qui que ce soit. Mmh. Et donc, les résultats sociaux, en termes de revenus, en termes de position, c'est le résultat justement de cet ordre spontané. Et si cet ordre spontané est dirigé économiquement à travers le système des prix, ça signifie que toutes les compétences, toutes les capacités des agents sont dirigées en fonction des besoins qui semblent effectivement les plus importants pour la société, et chacun sera rémunéré à hauteur de sa contribution à la création de valeur. Donc c'est en cela que finalement le résultat sera juste, oui, à partir du moment où la procédure sera juste. Chacun donc aura ce qu'il mérite, dans le sens où chacun aura l'équivalent de sa contribution à la création de valeur.
Mais la procédure dont vous parlez, si j'ai bien compris, elle n'est pas délibérative. On discute pas, on se met d'accord quand même sur des règles minimales, mais la procédure, c'est surtout de ne pas imposer trop de règles. Les gens doivent avoir des transactions sur un marché parfaitement libre. Il y a quand même des règles ?
Alors exactement, donc le marché parfaitement libre est encadré par des règles sociales que Hayek définit comme des règles de juste conduite. D'accord.
Et on délibère pour ça ou non ?
Et non, la délibération, effectivement, ne peut pas être orientée consciemment par aucune autorité, dans la mesure où ces règles vont incorporer une somme de connaissances, de savoir, de sagesse incorporée par des codes sociaux qui dépassent les capacités de n'importe quel individu ou groupe d'individus d'être jugé. Donc ce n'est pas l'ensemble qui peut être jugé. Simplement, pour Hayek, à partir du moment où on est dans une dynamique économique et sociale inévitable, il y aura des conflits entre ces règles qui vont émerger inévitablement,
oui,
et c'est donc le juge qui, confronté à des conflits, devra arbitrer pour savoir si de nouvelles procédures, de nouvelles coutumes, de nouveaux comportements peuvent être incorporés dans un système global dont la structure ne peut pas être contestée en tant que telle.
Alors j'ai besoin encore, parce que vous êtes vraiment au plus près du texte, Thierry Mard, d'une précision. Est-ce que ça ressemble un peu à l'élaboration du droit sur les terres qu'on appelle de common law, c'est-à-dire, nous on n'est pas très habitués à ça en France. Chez nous, le droit, il est créé par l'État, par un législateur. Alors évidemment que les juges, dans les jurisprudences, font avancer le droit et contribuent au droit. Mais sur les terres anglo-saxonnes de common law, les juges créent vraiment le droit à partir des conflits qui leur sont soumis, et ensuite on crée éventuellement une harmonisation via des cours suprêmes qui essayent d'harmoniser l'ensemble. C'est ce modèle-là que vous appelez procédure, qui est celui d'Hayek pour l'ensemble des règles à appliquer au marché.
Exactement. Hayek, c'est un historien, il connaît très très bien évidemment l'histoire du droit, et c'est quelqu'un de très familier, de très sensible à la tradition anglo-saxonne de la common law, qui l'oppose effectivement à la tradition continentale, héritée de la Révolution française, le Code civil, Napoléon, etc. Et donc, ce sont deux traditions complètement différentes, et Hayek, bien évidemment, de ce point de vue-là, se relie à la tradition anglo-saxonne, avec bien sûr cette héritage de la common law, où le droit évolue à la marge en fonction d'un corps constitué par l'histoire, qu'il ne faut pas évidemment considérer comme une évangile, qu'il ne faut pas contester en quoi que ce soit, mais par contre bien réaliser que l'ensemble de ces règles incorpore, comme je le disais tout à l'heure, un ensemble de savoirs qu'aucun individu ne peut modifier en tant que tel sans créer d'énormes dégâts. Et donc de ce point de vue-là, il faut faire il faut accepter des ajustements à la marge, et le juge doit tout simplement se poser la question de savoir si une nouvelle pratique est compatible avec un ensemble de règles, sachant qu'il faut respecter des impératifs catégoriques au sens de Kant, c'est-à-dire que les valeurs doivent être universelles, s'appliquer à tous, et donc de ce point de vue-là, ne pas considérer évidemment des privilèges qui pourraient évidemment s'installer en faveur de certaines minorités, quelles qu'elles soient.
Valérie Charolles, ce que vient nous expliquer Thierry Aymard à propos de Hayek suppose donc qu'il y a quelque chose d'immanent. Les règles, elles se font dans la société petit à petit. Il y a presque quelque chose de l'ordre de la tradition. D'ailleurs, vous approuvez là, ça me fait plaisir, Thierry Emma. Ça me rassure dans la tentative de décryptage. Ça n'a rien à voir avec un point de vue comme celui de l'État qui, a priori, de manière un peu transcendante, surplombante, édicte des règles de justice et, par exemple, éventuellement pour contrarier les marchés dans leur fonctionnement naturel. Ça c'est quand même vraiment le libéralisme. Il y a même quelque chose qui ressource un peu la théorie de la main invisible d'Adam Smith. Valérie Charolle, vous êtes d'accord?
Oui, il y a quelque chose qui est en plein dans la théorie de la main invisible d'Adam Smith, mais Adam Smith, il faut bien voir que dans La richesse des nations, il a sur les 5 livres de La richesse des nations, les 2 derniers traitent de l'État et de ce qu'il doit faire. Donc l'économie de marché telle qu'elle apparaît chez Adam Smith, c'est d'abord la concurrence, le fait qu'il va y avoir une libre... Les gens vont pouvoir se positionner librement sur le marché. Donc, on abolit les privilèges. Mmh. On abolit l'État absolutiste.
Oui.
La monarchie absolutiste. Ça, Hayek est contre, Rawls
contre
aussi.
L'absolutisme.
L'absolutisme. Contre, oui. Ça, c'est ce qui est le tréfonds commun à tous nos auteurs. Smith, Rawls et Hayek. Après, la manière dont l'État intervient ou non, elle est, je dirais, beaucoup plus développée chez Smith que ce que l'on a bien voulu en retenir dans la vulgate un peu néolibérale, dans laquelle je peux classer, pas dans la vulgate, mais dans les théoriciens néolibéraux Hayek, au sens où chez Smith, l'État, il n'est pas du tout peau de chagrin. Hein.
L'État, on a fait une émission hier, vous
oui,
savez,
mais
on a
évoqué. Il assure le fonctionnement du marché et toutes les infrastructures.
Oui, oui.
Il a vraiment des fonctions. Et chez Rawls aussi, l'État a pour fonction, qui est un auteur libéral, Rawls, l'État, il a pour fonction de faire en sorte que ce qui va être trouvé au sein du marché ou au sein de la procédure de la justice puisse être mis en œuvre via, par exemple, c'est une des illustrations très connues chez Rawls hein, dans son libéralisme, le revenu universel, puisque c'est ça la question qu'on voit aussi chez Hayek parfois poindre. Donc c'est pas le libéralisme, c'est pas l'absence d'État chez tous les auteurs, ça l'est chez Friedman.
C'est la limite, nous l'avons dit hier, c'est le fait de vouloir limiter le pouvoir de l'État.
C'est limiter ce pouvoir de l'État.
Donc là-dessus, ils sont bien sûr de Locke, Smith, on a vu hier que il pouvait même être a posteriori relu de manière un peu critique par des libéraux d'aujourd'hui comme ayant fait trop de place à l'État. Mais leur point commun, c'est l'idée qu'il faut limiter. On est voilà. Bien d'accord, et, Valérie Charolle, limiter le pouvoir de l'État.
Limiter la place de l'État et limiter surtout, également dans le même temps, les positions de pouvoir. Et donc, c'est limiter la place aussi oui. Du capital et de sa position par rapport au travail. On y reviendra, je présume.
Alors maintenant, Patrick Savidan, introduisez, si vous le voulez bien, la figure de John Rawls. Je ne serai pas contre un peu de biographie, ça fait du bien, ça incarne les idées. Et la question, c'est, est-ce qu'il est de plein pied dans la tradition libérale, au sens que nous venons de dire, ou quand même, il veut plus d'État que Hayek, donc il tire un peu, diraient certains, vers la gauche. Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est une question redoutable. Merci
Je ne pose
d'avoir
que
posé.
Des questions redoutables.
Ce qui est peut-être marrant de constater quand il s'agit de Rawls, c'est qu'il a été reçu un peu à contre-courant, disons en décalage. Il y a une forme de désynchronisation. C'est-à-dire que, en tous les cas, pour le public français, lettré, et puis ensuite, de manière un petit peu plus élargie, les politiques et autres, il a été reçu à un moment où la critique de l'État battait son plein. Où on était plutôt dans une logique post-État-providence et on cherchait un petit peu à moderniser les outils d'intervention de l'État et à considérer la manière d'articuler la société et la politique.
Donc fin des années 80, vous diriez ?
Fin des années 80, quand il a été traduit, et puis surtout dans les années 90, la réception réelle a été assez tardive pour Rawls. Et donc à ce moment-là, il a été perçu pour des sociodémocrates qui sentaient bien quand même que l'État-providence subissait un certain nombre de coups de boutoir sous l'effet de la crise de financement de l'État-providence, tout simplement, et puis le contexte de mondialisation internationale, etc. Donc, sous cette pression-là, ils ont pensé que Rawls pouvait être un support théorique assez convaincant pour défendre l'État-providence. Maintenant, si on regarde les textes, le problème, c'est que Rawls n'est pas du tout là. Alors, sans doute qu'il est plus favorable à l'État-providence que à l'ultralibéralisme, pour reprendre la formule d'Isaiah Berlin, mais il défend une option qui est une critique de l'État-providence capitaliste, comme il l'appelle, hein, welfare state capitalism. Et donc, il est à ce moment-là enrôlé dans ce combat, et on le perçoit comme un social-démocrate un peu tiède, qui réactive des vieilles solutions, qui nous permet de lutter contre notre mélancolie, qui voit disparaître l'État-providence. Lui, en fait, il est déjà au-delà, paradoxalement.
Oui, et si je puis me permettre, un jour, je vous ai entendu faire une conférence, Patrick Savidan, et vous disiez en même temps que de rendre Rawls trop libéral-conservateur, c'est aussi une erreur, c'est quelqu'un qui est très engagé. Et je me souviens très bien, peut-être vous assumerez aujourd'hui, vous disiez par exemple que Alain Minc a récupéré à un moment donné Rawls contre une gauche trop étatiste, mais il en a fait une espèce de blairisme ou de nouvelle gauche très light, très libérale, et je crois que vous trouviez que c'était excessif aussi. Est-ce que je me trompe ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que en fait, le texte auquel vous faites référence, c'est le texte que Alain Minc avait produit dans le contexte d'une commission à laquelle participaient un certain nombre d'intellectuels, qui étaient d'ailleurs pas tous d'accord avec les résultats du rapport, hein, notamment des gens comme Pierre-Rosan Vallon, comme Jean-Paul Fitoussi, etc. Et c'était la France de l'an 2000, il fallait projeter un petit peu une nouvelle France, c'était l'époque de Balladur. Et dans ce contexte-là, Alain Minc avait eu l'intelligence de saisir quelque chose autour de la notion d'équité et avait utilisé la notion d'équité comme une sorte de fer de lance contre la notion d'égalité.
Oui.
Et là, c'est un contresens, très clairement. Ah. La notion d'équité chez Rawls, un petit peu aussi en lien avec Hayek, renvoie plutôt à la notion de fair play, c'est-à-dire de fairness, c'est-à-dire est-ce qu'on va jouer selon les règles. Donc, c'est son côté procédural qui s'exprime à travers cette notion d'équité et pas du tout la volonté d'en finir avec l'égalité. Or, reprenant son trope de la machine égalitaire de l'État qui produit, en voulant produire de l'égalité, produit de l'inégalité, Alain Minc avait utilisé la notion d'équité pour dire on va débureaucratiser en quelque sorte l'État-providence, on va le rendre plus régulateur, mais en même temps plus à distance pour libérer des énergies, etc. Ce qui était une idée assez courante dans les années bien antérieures aussi, mais dans les années 90, c'était le combat politique qu'il fallait mener. Rawls n'oppose certainement pas l'égalité à l'équité. Oui. Pour lui,
les règles valent pour tout le monde également.
Les règles valent pour tout le monde, mais il y a une volonté d'égalisation très très forte,
oui,
et qui est portée par un État...
Une lutte contre les inégalités sociales.
...qui est très entreprenant, à tel point qu'il juge que l'État-providence capitaliste, c'est-à-dire l'État-providence tel qu'il s'est développé en régime capitaliste, n'est pas à la hauteur des tâches, puisqu'il est oligarchique par les effets qu'il produit. Donc il dégomme complètement l'État-providence capitaliste. Il dit, si je n'y ai pas insisté énormément dans la théorie de la justice, c'est parce que je pensais que ça allait de soi, et en gros, quand il y revient, c'était parce que c'était j'avais besoin de distinguer un petit peu les différentes options, donc je vais insister sur celle qui me semble la plus originale, la démocratie des propriétaires, comme il l'appelle,
oui.
Et il ne s'intéresse pas trop à l'État-providence capitaliste qu'il critique très très fermement pour ses effets oligarchiques. Donc il y a une vraie radicalité chez Rawls qui a été souvent mésestimée, sauf par quelques lectrices bien informées et lecteurs.
Alors je vous propose qu'on entre dans le fond de ce débat et qu'on revienne à la question des ordres spontanés qui m'apparaît, mais peut-être que je me trompe, comme la pomme de discorde. Il y a quelque chose qui spontanément est ordonné par le marché chez Hayek. C'est moins sûr du point de vue de Rawls, ce qui ne l'empêche pas d'avoir une vraie fibre libérale. C'est une question de nuance. Je vous reposerai aussi la question du mot liberal. Est-ce que aux États-Unis, liberal, c'est beaucoup plus à gauche que libéral chez nous. Libéral chez nous, c'est plutôt parfois conservateur. Donc c'est très difficile les appellations. On y revient. Écoutons un texte de Hayek qui enfonce le clou sur les ordres spontanés où on ne doit pas intervenir de manière surplombante. Il s'agit bien sûr d'un extrait de son premier volume de 1973, de sa somme « Droit, législation et liberté ».
Il n'y aurait aucune exagération à dire que le point de départ de la théorie sociale, et sa seule raison d'être, est la découverte qu'il existe des structures ordonnées qui sont le résultat de l'action d'hommes nombreux, mais d'aucun dessein humain. Dans certains domaines, cela est maintenant universellement accepté. bien qu'il y ait eu une époque où les gens croyaient que même le langage et la morale avaient été inventés par quelques génies du passé, tout le monde reconnaît maintenant qu'ils sont l'aboutissement d'un processus d'évolution dont personne n'avait prévu ni projeté les résultats. Mais dans d'autres domaines, bien des gens traitent encore avec suspicion l'affirmation que les schémas d'interaction d'hommes nombreux puissent présenter un ordre qui n'est l'œuvre délibérée de personne. Dans la sphère économique notamment, les critiques déversent encore des sarcasmes à base d'incompréhension sur l'expression d'Adam Smith parlant de la main invisible.
Thierry Aymard, les schémas d'interaction d'hommes nombreux, dit Hayek, peuvent présenter un ordre qui n'est l'œuvre délibérée de personne. Il ne pense pas que les interactions spontanées peuvent produire du chaos, même limité, même circonscrit, mais des formes de chaos, des choses qui ne vont pas, ou des formes d'injustice grave.
Je vais nuancer. C'est-à-dire que l'ordre spontané, évidemment, c'est une réalité chez Hayek. Son efficacité, elle est louée au fur et à mesure, évidemment, du développement de son œuvre. Mais il n'est pas non plus naïf. C'est-à-dire, il ne dit pas que chaque fois qu'un ordre spontané va s'organiser, il va déboucher sur des résultats qui sont forcément parfaits. Ce qu'il va dire, c'est que toute tentative d'incorporer un schéma alternatif va nécessairement incorporer lui-même moins de connaissances que cet ordre lui-même, et donc aboutira à un résultat qui sera encore plus mauvais. C'est en ce sens.
Moins c'est-à-dire... de connaissances. Il faut apprécier parce que c'est vrai qu'on dit souvent que la critique des étatismes de toutes sortes, même les plus légers, les politiques publiques, on va employer ce terme qui est fréquent aujourd'hui, de la part d'Hayek, c'est épistémologique, comme disent les philosophes. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'en fait, on n'a pas de connaissances par un point de vue... a priori et surplombant.
Sur le résultat de l'ordre, une nouvelle fois, mais ça ne signifie pas que cet ordre spontané ne doit pas être organisé lui-même par des règles, alors des règles qui viennent de la tradition, mais que aussi le juge, et en partie l'État, doit organiser. C'est-à-dire que Hayek n'est pas un anarcho-capitaliste, donc il donne une place à l'État, l'État de droit,
oui,
qui doit bien sûr protéger le droit de propriété, mais qui doit aussi, et c'est pour ça qu'il faut nuancer le propos de Hayek, Hayek n'est pas pour une pleine liberté des contrats. C'est-à-dire que c'est l'État et le juge
point, oui,
qui doit effectivement considérer quels sont les contrats qui peuvent être légitimes ou pas, être conformes à la rule of law, comme il le proclame lui-même, c'est-à-dire un ensemble de règles qui va justement permettre à l'ordre spontané d'aboutir en termes, si j'ose dire, de probabilité, même si le terme n'est pas forcément si adéquat que ça, à des résultats qui seraient supérieurs à toute procédure alternative. Et donc, de ce point de vue-là, évidemment, il faut intervenir, mais il ne faut pas intervenir sur le résultat, mais sur la procédure. La concurrence est quelque chose qu'on ne peut pas, évidemment, détacher de la pensée de Hayek. Un libéralisme sans concurrence, ce n'est pas un libéralisme. Ça s'appelle un conservatisme, tout simplement.
Et la concurrence, ça s'ordonne par le droit.
Et la concurrence s'ordonne par le droit, par une structure de contrat spécifique. On ne doit pas laisser, effectivement, des entreprises s'organiser spontanément à travers n'importe quelle règle. Et de ce point de vue-là, je vais faire un peu le contre-pied du point de départ de l'émission, si vous me permettez. Je vais lire juste simplement une phrase de Hayek dans Droit, Égalité, Liberté. Je suis arrivé à la conclusion que ce que je pourrais avoir à dire du livre de John Rawls, A Theory of Justice, ne servirait pas à mon objectif immédiat parce que les différences entre nous apparaissent plus verbales que substantielles.
Ah, donc, alors maintenant on va voir. Parce que vous avez un spécialiste de Rawls à côté de vous, Patrick Savidan. Donc quels sont les principes que définit Rawls et qui engage l'action publique, c'est-à-dire qui doivent régler l'action publique et qui sont bel et bien des interventionnismes par rapport aux ordres spontanés hayekiens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça en quelques mots? Je sais que c'est un peu difficile, vous m'avez dit que je posais des questions redoutables, j'assume.
Il y aurait plusieurs manières d'aborder la question. La première serait plutôt tournée vers un volet un peu critique qui consisterait à dire jusqu'à quel point Hayek est capable de tenir la position qu'il défend.
Hayek ou Rawls?
Hayek déjà.
Hayek.
Pour montrer qu'au fond, il y a peut-être toute une série de contradictions internes chez Hayek.
Ah.
dont il assume pas forcément non plus les conséquences. C'est-à-dire que Hayek va assez loin, quand on l'a entendu dans le magnifique extrait que vous avez déroulé, c'était celui qui reconnaissait qu'il fallait peut-être mettre en place une sorte de revenu qui permettrait de prendre en charge les besoins de ceux qui ne sont pas servis par le marché, en quelque sorte. Mais il va même plus loin. Il y a d'autres textes où il dit l'État peut prendre en charge certaines valeurs, peut défendre certains services publics. Donc il y a même une pensée du service public chez Hayek. Et la question, c'est est-ce que c'est compatible avec les principes qu'il a posés, notamment toutes les exigences épistémologiques qu'il défend avec une force assez extraordinaire.
Même quand il parle de la dégénérescence de l'État dans certains textes, pour dire ensuite qu'il veut du revenu minimal. Enfin bon, c'est un point dont on va reparler dans l'émission. Mais annoncez-nous, si je puis dire, le cœur du débat avec Rawls. Quels sont les grands principes d'intervention de l'État, selon cette fois-ci John Rawls?
Alors, il est vrai que Hayek éprouve le besoin de se positionner par rapport à Rawls.
Oui.
Quand il sort son livre sur droit, législation et liberté, il le fait très rapidement. Manifestement, il n'a pas lu énormément, mais c'est évident, il avait son œuvre à construire aussi. Il n'a pas lu le livre de Rawls en détail. Et donc, ça intervient dans les premières pages où il dit, bon, on m'a fait savoir que peut-être j'aurais besoin de me positionner par rapport à une œuvre très importante qui vient d'être publiée, etc. Je n'éprouve pas le besoin de le faire, comme ça a été dit, puisqu'au fond, j'ai l'impression qu'on est en gros d'accord. Alors bien sûr, c'est une erreur assez massive. Et de son côté, Rawls ne polémique pas avec Hayek. Je pense qu'il y a peut-être une forme d'estime entre les deux penseurs, mais il ne cite jamais, il ne s'appuie jamais sur lui, c'est pas une référence possible. Son horizon à Rawls, c'est complètement ailleurs. Et l'horizon de Rawls, c'est vraiment l'engagement libéral dans sa plus pure expression, je dirais, c'est-à-dire dans sa version politique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des personnes qui subissent des formes de domination dans la société? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont gênées sur le plan politique, gênées sur le plan économique, gênées sur le plan social, de telle sorte qu'ils puissent plus exprimer la liberté qui est la leur dans des proportions qui soient acquises pour d'autres? Et donc, son projet, à lui, c'est de rectifier tout ce qui va faire obstacle à cette exigence d'égale liberté chez les autres. Son problème à lui, c'est pas simplement la défense formelle, comme ça peut être le cas chez Hayek, pour des raisons de fond aussi, hein. C'est pas des auteurs insignifiants, les deux. C'est mûrement réfléchi à chaque fois à ce qu'ils font. Donc, il se contente pas de défendre l'idée que les droits doivent être défendus dans la dimension formelle. Il se demande aussi quelles conditions la liberté doit pouvoir mobiliser pour pouvoir être effective. Il ne se contente pas de penser la liberté, il essaye de penser la valeur de la liberté pour chacun. Il utilise cette expression. Il dit quelle valeur va avoir la liberté? Très bien, on l'a déclarée, on l'a proclamée, on l'a édictée d'une certaine manière, mais quelle est la valeur d'usage? C'est presque marxiste. Quelle est la valeur d'usage de l'égalité? Quelle est la valeur d'usage de la liberté? Quelle est la valeur d'usage de la fraternité?
Alors, le problème est marxiste, peut-être, mais la solution, pas du tout. Puisque, quand même, est-ce que vous accepteriez que je résume les deux grands principes, outre le fait qu'il faut des libertés politiques et civiques égales pour chacun? Ça, Rawls le pense, et je pense qu'Hayek pense exactement la même chose. Rawls considère qu'il faut favoriser l'égalité des chances. Donc là, il y a probablement une intervention en termes de politique publique pour favoriser justement le fait que chacun puisse avoir autant d'horizons ouverts que l'autre. Et deuxièmement, il faut toujours avoir en tête la situation du plus défavorisé. Et si on peut avoir autant de croissance et d'harmonie dans le tout social en favorisant davantage le plus défavorisé, on doit choisir cette option. C'est un principe complexe sur lequel, Valérie Charolles, j'aurais beaucoup à vous demander, vous qui réfléchissez aux quantifications, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce résumé, Patrice Savidan?
Mais déjà, à chaque fois, ces principes sont l'espace de controverses fameuse, c'est-à-dire que l'égalité des chances, oui, mais laquelle? Lui, il défend l'égalité démocratique des chances et il l'oppose au système naturel de l'égalité des chances. C'est-à-dire qu'il dit très clairement dans ces développements-là qu'il est contre l'ultralibéralisme, qui pense pas qu'on puisse se contenter de défendre l'égalité des chances. Il faut aller beaucoup plus loin et penser les conditions effective d'une réalité de l'égalité concrète des chances, d'une certaine manière. Ça a été beaucoup évoqué. Et quant à la question du principe de différence, oui, le deuxième
s'occuper
élément...
S'occuper du plus défavorisé toujours.
Plus défavorisé, c'est une manière de répondre d'une certaine façon à la pensée ultralibérale, d'une certaine façon, qui consiste à dire... on va chercher à articuler liberté et égalité, on va s'appuyer pour ce faire sur la notion d'efficacité. Et Hayek a une proposition forte de ce point de vue-là. Il va dire il faut privilégier l'efficacité pour, si on veut pouvoir avoir la liberté, et faire attention à ne pas aller trop loin dans l'égalisation, parce que ça va jouer sur l'efficacité, sous-entendu l'efficacité du marché. Ce que fait Rawls, qui est d'une radicalité folle d'une certaine manière, c'est de dire je vais mettre l'efficacité au service des plus démunis. C'est-à-dire que l'inégalité qu'on va pouvoir justifier, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tolérer d'une certaine manière, c'est l'inégalité dont on peut établir avec certitude qu'elle est bénéfique aux plus défavorisés. Si elle n'est pas bénéfique aux plus défavorisés, je n'ai aucune raison de la conserver. C'est-à-dire qu'on inverse le schéma. C'est pas simplement on limite les inégalités quand ça nous permet de financer un certain nombre de choses. C'est de dire concrètement quelles raisons pouvons-nous avoir de conserver des inégalités. C'est donc la personne qui jouit d'une position défavorisée qui doit rendre des raisons, qui doit rendre compte de ses avantages.
Alors ça c'est très clair, mais ce sont des principes qui sont complexes pour leur mise en œuvre. Je précise à nos auditeurs que nous sommes dans le deuxième épisode de notre série de cette semaine sur la pensée libérale. Et aujourd'hui, nous faisons vivre ici même le débat entre Friedrich Hayek et John Rawls. Je suis en compagnie de Thierry Aymar, Patrick Savidan et Valérie Charol. Valérie Charol, les principes que détermine Rawls sont d'une très grande clarté, mais c'est vrai que penser toujours à la situation du plus défavorisé, d'abord si on pense vraiment à lui, peut-être qu'il devient moins défavorisé et peut-être que d'autres ont pris la place entre-temps du plus défavorisé, c'est une délibération permanente au sein de l'État, ce n'est pas faire confiance complètement comme Hayek le fait aux ordres spontanés du marché, c'est quand même intervenir, faire attention, supposer qu'on a une connaissance de la situation des plus défavorisés, ce que j'ai cru comprendre qu'Hayek réfutait, puisqu'il ne pense pas qu'il y a une connaissance comme ça en surplomb. Qu'est-ce que vous pensez, vous qui travaillez sur la quantification, les chiffres, les outils économiques et la conception de l'individu qui en ressort, qu'est-ce que vous pensez de la position rawlsienne aujourd'hui ? Est-elle applicable ?
Alors, dans Le libéralisme contre le capitalisme, qui est mon premier livre, qui date de 2006, mais qui est ressorti en 2021 en folio, je m'appuie beaucoup sur Rawls, moi. Parce que Rawls, je pense que c'est celui qui a mis le débat sur l'organisation de l'économie de marché telle qu'il est apparu au XVIIIe siècle, qu'il a reformulé pour le XXIe siècle. Rawls, c'est un auteur qui a une génération après Hayek. C'est vrai qu'il ne cite pas Hayek.
Ils ont 22 ans d'écart, oui.
Ils ont 20 ans d'écart. Ils ont 20 ans d'écart. Rawls écrit son premier grand livre, la A Theory of Justice, donc une théorie de la justice. Il est plus modeste que ce qu'on lui prête dans sa traduction, le titre étant un peu malencontreusement en français, la théorie de la justice. Rawls, il a écrit en anglais A Theory of Justice. Il va reprendre ça toute sa vie. En 93, il écrit Libéralisme politique et en 2003, 2001, il écrit La justice comme équité, une reformulation de la théorie de la justice. Et toute sa vie, il s'occupe de ce sujet qui est comment faire en sorte pour que l'égalité et la liberté, qui sont nos deux aspirations, puissent exister de concert dans la société. Et la réponse qu'il apporte au fait qu'on n'arrive pas à le faire, ce qu'il nous dit, c'est qu'on ne prend pas le sujet à un niveau de généralité suffisante. Et ce qu'il fait dans la théorie de la justice, c'est qu'il se situe au niveau généralité suffisante. Alors lui est kantien, il n'est pas du tout Rawls, c'est un kantien revendiqué, il n'est pas du tout pour l'ordre spontané, c'est pas du tout un darwinien. Et à ce niveau-là apparaissent ces deux principes de justice qu'il hiérarchise. Le principe de liberté prime sur le principe d'égalité des chances, qui prime sur le principe il arrive en dernier, le principe d'accès de préférence pour les plus défavorisés. Et il fait émerger.
Et comment on fait concrètement ?
Alors, il fait émerger.
C'est l'outil étatique.
Ce qui est intéressant, c'est de voir la manière comment lui le fait.
Oui.
Lui, il le fait avec un dispositif conceptuel qui est très intéressant, qui est celui du consensus par recoupement et du pluralisme raisonnable avec le voile d'ignorance. Le consensus par recoupement, c'est qu'on va mettre les gens à un on va accepter que les gens aient des croyances différentes. Mais on se dit, placer en voile d'ignorance, c'est-à-dire ne sachant pas quelle va être leur position dans la société, ils pourront être riches ou être sans domicile fixe. Ils vont, par recoupement, par discussion, par délibération, donc c'est pour ça que je vous parle de ce sujet-là, c'est par la délibération entre personnes, c'est-à-dire par la démocratie. C'est pas l'État qui va le faire. C'est la loi...
Quoi, c'est une démocratie c'est la de délibération amplifiée au sein de la société.
C'est une démocratie, c'est dans la
des
loi.
Des situations des uns et des autres.
Ce qui est intéressant chez Rawls, c'est qu'à l'arrivée, quand il nous dit quels sont les régimes qui peuvent respecter ces principes de justice, il nous dit, c'est dans une reformulation de la théorie de la justice en 2000, et il nous dit, moi je m'appuie beaucoup dessus, il y a trois régimes qui respectent pas et qui peuvent pas respecter le principe de justice, le capitalisme du laisser-faire, le communisme planifié, le capitalisme de l'État-providence, qui est peut-être ce à quoi pense Hayek. Hayek, c'est sans doute entre le capitalisme du laisser-faire et le capitalisme de l'État-providence. Il nous dit, il y a deux régimes qui peuvent en revanche marcher. Le premier, il a été cité par Patrick Savidan, celui de la démocratie de propriétaire. Pourquoi ? Parce que chacun est propriétaire de son outil de production. Et donc, on va pas dépendre d'autrui pour être un acteur sur le marché économique.
Et sa force de travail, c'est une propriété, comme disait Locke. On est propriétaire quand on est salarié.
Et donc, c'est aussi
être propriétaire quand on est salarié.
Le premier régime, c'est celui dont il pense qu'il est valable et qui pourrait être appliqué aux États-Unis. C'est la démocratie de propriétaire. Chacun est propriétaire de son outil de production. Le deuxième régime, c'est le socialisme démocratique libéral. Et celui-là, il pense qu'il correspond à ce qui pourrait être le meilleur futur possible pour l'Europe continentale. Et ça correspond à l'idée que l'entreprise, elle peut être gérée non pas en fonction des besoins de ses actionnaires, mais en codétermination, les salariés ayant autant de poids que les actionnaires dans le conseil d'administration. Mmh. C'est ça qui vise. C'est le reproche qui fait très profondément à l'idée d'un État-providence capitaliste. Il dit l'État-providence capitaliste, vous laissez marcher fonctionner le marché de façon déséquilibrée en acceptant qu'il y ait des grosses entreprises qui puissent imposer des bas salaires. Je simplifie, mais c'est ça le raisonnement. Alors que, dans mon système, celui de l'économie sociale libérale, l'entreprise, elle va être gérée en fonction des intérêts des actionnaires et des salariés, donc en répartissant équitablement.
À condition qu'on puisse installer la délibération constante dans l'entreprise.
C'est la démocratie au sein de l'entreprise. C'est la démocratie dans l'entreprise qui vise. C'est vraiment un autre paradigme qui met en avant et qui est un paradigme qui est actif, par exemple, aujourd'hui, depuis les années 70, dans les entreprises allemandes de taille moyenne. C'est ce qui se produit. Il y a la moitié du conseil d'administration qui est composée de salariés. Et on voit bien, à l'expérience, que l'Allemagne a beaucoup plus d'entreprises de taille moyenne que la France. Pourquoi ? Sans doute parce que, comme dans les conseils d'administration, il y a la moitié de salariés, ils sont moins favorables à des délocalisations.
Thierry Aymard, Hayek et Rawls ne débattent pas de manière violente, et même Patrick Savidan nous a dit qu'il y avait un tel respect mutuel que c'était doux entre mais. Est-ce que Hayek accepterait cela ? Et est-ce que du point de vue de Hayek, la position de Rawls ne mène pas quand même à de l'étatisme au sens soft, excusez-moi, mais c'est-à-dire juste, il faut quand même aussi des politiques publiques, il n'y a pas que dans l'entreprise, il n'y a pas que par la négociation, par des délibérations de citoyens. Il est clair quand même pour Rawls qu'il faut un moment des politiques publiques, comme on dit, ou alors je me trompe. En tout cas, quelle est l'inquiétude de Hayek par rapport au système proposé par Rawls ?
Je pense pas que le champ d'opposition se situe à ce niveau. Valérie l'a fort bien dit, c'est-à-dire que Coral Rawls est partisan d'un équilibre réfléchi qui doit se situer au niveau des individus et pas forcément au niveau des États. C'est pas l'État qui doit organiser l'ensemble des choses, même si évidemment il doit lancer une procédure, notamment dans les entreprises, etc. Donc je pense pas que ce soit à ce niveau.
Non, étatisme était d'ailleurs, je vais prendre un mauvais mot, un appel à l'État, à un peu d'État.
Mais pour Hayek aussi, l'État a un rôle, donc c'est pas forcément
le problème.
Et je vais persister et signer par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai écouté avec une grande attention ce qui a été dit tout à l'heure sur les critères, etc. Je vais les reprendre très rapidement. Donc, le voile d'ignorance. Alors évidemment, il est considéré ex ante, hein, c'est une sorte de libéralisme contractualiste, on a un état de nature et puis on essaie de voir. L'ignorance est un concept très hayekien aussi. Ça, bon, lui dit que c'est pas un état ex ante, c'est l'état quotidien de chacun, le marché crée de l'ignorance, et de ce point de vue-là, personne n'est capable de savoir finalement ce qu'on sera dans un an, dans deux ans, parce que ça dépend de quoi ? Ça dépend de l'évaluation par les consommateurs de nos compétences, de nos capacités, et donc tout cela est indéterminé et suit une dynamique que personne ne contrôle. Donc l'ignorance, elle est là. Alors à partir de ce moment-là, justement, si on reprend l'autre critère, les deux autres critères de Rawls, le principe de liberté. Chaque citoyen doit avoir accès aux mêmes libertés, et la liberté de chacun doit être compatible avec la liberté des autres membres de la société. Mais ça, Hayek aurait pu l'écrire, bien évidemment. Lui, il considère évidemment que le marché crée cette liberté et que la concurrence permet à chacun d'accéder au territoire des opportunités. Voilà. Ensuite, le principe de différence, c'est-à-dire de tolérer des inégalités. Donc les deux, évidemment, s'accordent là-dessus. Hayek va dire, bah oui, il y a des inégalités, clairement, Rawls aussi. Mais les deux s'accorderaient pour dire que, alors évidemment sur des chemins différents, hein, avec des méthodes différentes, les deux vont s'accorder pour dire, mais que ces inégalités, en fait, permettent, non pas au plus grand nombre, mais permettent un maximum de chances pour chacun d'avoir un maximum d'opportunités de pouvoir les exploiter. Et donc les inégalités pour les deux auteurs doivent être tolérées, pour autant qu'elles profitent, alors évidemment, ça a été rappelé tout à l'heure, aux plus défavorisés, mais c'est exactement la position de Hayek. C'est-à-dire que Hayek va dire que le capitalisme, l'ordre de marché, a permis à toute une série de gens qui seraient morts sans cet organisme de marché, d'être vivants.
Mais est-ce qu'il n'y a pas plus...
ils ne seraient pas là.
J'entends.
Et donc c'est finalement
un système... Je suis très étonnée, on dit souvent que chez Hayek, il y a quand même du non-délibérable. Et on a l'impression que Rawls veut aller vers cette zone-là et considérer que les choses non délibérables, selon Hayek, sont en fait délibérables.
Et c'est là l'opposition, effectivement. C'est-à-dire, Hayek va dire quoi à Rawls, implicitement ? Il va dire, tes solutions sont intéressantes en tant que telles, simplement elles ne sont pas applicables. Pourquoi ? Parce que les positions de chacun vont dépendre d'une multitude de faits que personne ne pourra contrôler véritablement. Et même si on cherche à améliorer la situation de manière délibérative dans certaines situations pour favoriser tel ou tel membre de la société naturellement défavorisé,
oui,
on ne pourra pas réussir l'objectif. C'est-à-dire que l'opposition elle n'est pas tellement sur le fond, sur l'idée. C'est pour ça que je suis assez sensible à quand même ce caractère, cette phrase assez intéressante de Hayek, avec des différences plus verbales que substantielles. C'est plus sur les méthodes. Je pense qu'Hayek s'oppose à Rawls, implicitement sans en avoir discuté, parce que c'est vrai, il n'y a jamais eu de dialogue direct entre eux. Hein. On aurait rêvé de ce dialogue direct. Mais donc, c'est plutôt finalement sur les méthodes. C'est-à-dire que cette espérance de pouvoir, par une délibération même décentralisée, au niveau d'une entreprise ou de certains acteurs, ça ne va pas déboucher sur des résultats qui vont correspondre aux objectifs. La société sera plus forte, en fait, que n'importe quelle instance délibérative, qu'elle soit centralisée ou plus décentralisée. Et donc, les ajustements doivent pas se faire de manière délibérative sur un ensemble de personnes, mais chacun doit pouvoir, avec ses propres moyens, ajuster le mieux possible sa situation au changement de circonstances. C'est plus, finalement, une réalisation de l'impuissance cognitive à finalement réaliser des objectifs qui sont définis par Rawls, plus qu'une opposition, finalement, sur le fond. Parce que, encore une fois, Hayek pense que les inégalités qui sont produites inévitablement par le système, on peut pas évidemment dire qu'elles sont justes ou pas justes, parce qu'on a déjà expliqué ça, mais lui, Hayek, on peut discuter de ça, il pense que le système de marché va permettre à ces inégalités de permettre un maximum de chances pour un maximum de personnes. Et donc, ces critères sont très démographiques. D'ailleurs, il dit, bah, regardez, depuis la révolution industrielle, regardez l'évolution démographique. Bah, finalement, ça a permis à plein de gens d'exister et de rester vivants. Et donc, pour lui, dans son dernier livre, ça sera un critère de supériorité du système de marché sur des systèmes alternatifs qui ont été finalement sélectionnés dans le temps, ce qui, pour lui, c'est un critère popérien, si j'ose dire, est un critère aussi de démonstration, si j'ose dire, d'une efficacité
supérieure. Popérien, cette référence à Karl Popper, mais je propose qu'on n'épilogue pas, parce que ça va nous mener très loin. Patrick Savidan, vous êtes d'accord, il ne faut vraiment pas durcir davantage les oppositions entre Hayek et Rawls. Je suis un peu surprise quand même.
Je voudrais pas qu'on
Je vous écoute.
Quand je parlais de douceur d'une certaine manière et d'estime probable, c'est parce que ce sont deux géants de la pensée.
Oui.
Il n'y a pas eu de débat entre les deux. Il n'y a pas eu de discussion. Ce qui en soi en dit long déjà. Et par ailleurs, il faut savoir que Rawls appartient à une époque résolue où la pudeur existait. Et c'est pas quelqu'un qui est du genre à polémiquer. On l'a jamais entendu polémiquer. On n'a jamais entendu Rawls vouloir intervenir dans les médias pour prendre une position ou autre. C'était pas sa tasse de thé. Il faisait cours, il écrivait ses livres. Et donc, il y avait une certaine douceur, sans doute. Il va même jusqu'à remercier Nozick, qui est quand même un libertarien, dans la théorie de la justice. Voilà, donc c'est quelqu'un qui était dans un dialogue avec ses adversaires aussi. Et donc, ça, c'est ce que je voulais dire quand je parlais de douceur d'une certaine manière. En tous les cas, il n'y avait pas cette forme de polarisation à laquelle on peut être tenté de succomber, peut-être tout particulièrement ces temps-ci. Donc il y a une volonté de dialogue constructif, mais les oppositions sont massives. Quand
même. Merci, parce que je commençais à douter. J'étais scié par l'ambiance.
La justice sociale est un mirage pour l'un, pour l'autre, c'est la condition, c'est la vertu première de toutes les institutions. Et donc après, on peut essayer de rentrer dans la discussion, voir quelles sont les manières pour chacun d'établir la position qui est la sienne, mais l'intention est radicalement opposée. L'ignorance, par exemple, c'est un thème qui est commun, certes, mais ils n'en font pas du tout le même usage. Hayek, vous en avez parlé hier, c'est un théoricien de la rationalité limitée. Il est inspiré par les Lumières écossaises. C'est pas du tout la théorie du rationnel, du raisonnable que va défendre Rawls.
Quand il parle délibérable, il y a des choses à dire. Il faut délibérer.
Quand il parle d'ignorance, c'est pas du tout l'ignorance épistémique au sens où Hayek l'entend. C'est l'ignorance morale au sens où je ne sais pas sur moi un certain nombre de choses, de sorte que je puisse être en capacité de choisir ce qui est bien, véritablement bien, d'une certaine manière, sous voile d'ignorance. Donc c'est une ignorance qui est une ignorance plutôt de l'ordre, encore une fois, de l'éthique, et pas du tout au sens de l'ignorance épistémique qu'on peut entendre. Au contraire, il y a le sous voile d'ignorance, les gens savent beaucoup de choses, mais ils ne savent pas simplement quel intérêt ils pourraient avoir à défendre telle position plutôt que telle autre. Et par rapport à la question de savoir qui va être le plus défavorisé, c'était votre inquiétude. Il a quand même un outil qui est bon sens d'une certaine manière, c'est qu'il fait un indice des biens premiers, c'est-à-dire tous ces biens dont on ne peut pas se passer si on veut que chaque individu puisse poursuivre la conception du bien qui est la sienne. Et pour lui, l'engagement libéral, il est là. Chacun doit pouvoir suivre, dans le respect bien sûr du droit des autres, doit pouvoir aspirer à réaliser la vision du bien qui lui appartient d'une certaine manière. Mais pour ça, il a besoin de biens qui sont des biens premiers. Et donc, par exemple, les bases sociales de l'estime de soi, du revenu, de la formation, de la santé, etc.
Des biens matériels aussi.
Et c'est des biens matériels, la santé, etc. Et donc, si ces indices-là permettent d'identifier des défavorables, c'est tout simplement les plus défavorables sont ceux qui sont en manque d'un certain bien, ce qui va les empêcher ensuite d'atteindre les biens premiers. Et par ailleurs, l'opposition, elle est aussi très forte dans la question du volontarisme politique. Il y a une critique du constructivisme, critique du volontarisme chez Hayek, mais il y a aussi une difficulté à tenir jusqu'au bout cette exigence-là.
Il en appelle quand même à l'État sur deux, trois choses.
Et puis surtout,
quoi qu'il en dise,
quand il défend, quand il arrive à constater qu'il y a des pauvres et qu'il y a des besoins, il dit, peut-être que l'État peut quand même mettre en place, mais ça doit se faire hors marché. Donc comment soutenir les pauvres hors marché, ça paraît assez, puisque la richesse est produite par le marché, ça paraît un peu difficile de l'imaginer. Et il dit surtout que le problème fondamental, c'est de vouloir créer des droits sociaux et économiques. Rawls défend les droits sociaux et économiques, alors que pour Hayek, c'est le début de la fin. Si on va là, on va dans la tyrannie, on va dans le totalitarisme, on va dans la dégradation, dans l'inefficacité la plus totale.
Le spécialiste Hayek opine, du chef tout à fait d'accord avec vous. Donc il y a quand même des oppositions majeures.
C'est des environnements de pensée moraux aussi complètement différents. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il va dans cette direction, Hayek, quand il reconnaît quand même que le cœur souffre, quand il voit de la pauvreté qu'on ne peut pas laisser, c'est le test, les conservateurs le disaient au XIXe siècle, comment on traite les plus défavorisés, c'est le test de la civilisation. Et donc il est lui-même sur cette base-là, et donc il faut faire quelque chose. Il dit le problème, c'est que du coup, on risque de mettre en place des avantages, des privilèges qui vont dégrader le système, induire une forme de planification, de centralisme démocratique, économique, qui est politique, qui est redoutable. Et il dit, la seule façon de prendre en charge le besoin des plus pauvres, au fond, d'une manière qui ne serait pas condamnable, c'est le monarque absolu. Il faudrait un monarque absolu. Seul un monarque absolu pourrait aller dans cette direction, parce que lui, il saurait dire, là, on arrête de marchander. Alors que la démocratie, elle va aller dans le sens du marchandage, elle va aller dans le sens de la négociation, des syndicats, etc. Et donc, elle va défaire complètement la démocratie pour devenir, à ses yeux, une forme de système totalitaire. Donc pour lui, la solution autoritaire, elle est inscrite dans la matrice de son libéralisme.
Dans même le projet social-démocrate est tout le temps...
Dans le système ultralibéral, si on veut, il dit il faudrait pouvoir avoir un pouvoir centralisé suffisamment fort pour qu'il puisse concéder une certaine aide aux plus forts, aux plus faibles, pardon, plus vulnérables, mais ne jamais aller au-delà et ne pas céder. Oui, et donc, il faut un gouvernement autoritaire qui correspond peu ou prou à la position de Carl Schmitt en 32.
C'est-à-dire alors là, un État. Par contre, le Hayekien, là, il n'est plus d'accord.
Dans la dimension intéressante, c'est-à-dire l'idée qu'il faut un État resserré et fort sur ses positions.
Un État minimal, mais fort.
Mais c'est fort, ça qui sache faire taire les demandes sociales, en fait, les tenir à distance et leur dire, on vous a concédé ça, on n'ira pas plus loin. Parce que le problème pour Hayek, c'est d'entrer dans une sorte de négociation permanente avec des syndicats, etc., qui va, du coup, faire surgir une démocratie de marchandage, dont l'issue sera une société militaire pour lui.
Bon, alors, j'ai un petit problème, c'est qu'il ne reste que 2 minutes. Donc, j'en donne une à Thierry Aymard et une à Valérie Charolles. Je suis vraiment désolée. Valérie Charolles, commencez.
Moi, je voulais dire que abonder dans la différence entre Hayek et Rawls, et au sens où Hayek est vraiment partisan d'une économie de The Pure Theory of Capital, ce qu'il est un de ses livres, c'est ça en 41, la théorie pure du capital, c'est une économie qui est organisée autour de l'idée que le capitalisme, vous avez dit capitalisme. Ou encore l'ordre du marché. Ben, je crois que ça, c'est pas vrai. Il y a différentes manières de faire marcher l'économie de marché, et que le capitalisme n'est pas la seule manière de le faire fonctionner.
Allez, le dernier mot,
Rawls nous propose une autre version.
On va rater la chanson, mais elle vaut le coup, la chanson.
Oui, tout à fait. Évidemment, La route à la servitude, c'est un ouvrage qui est bien connu de Hayek, et il montre évidemment... Alors, on revient sur le terrain épistémique, c'est-à-dire que si on s'achemine vers ce type de solution, on est confronté à des contradictions épistémiques qui amènent d'étape en étape vers un totalitarisme. Et donc, on retrouve la dimension épistémique, et je reviens sur cette dimension de différence de moyens plus que finalement de philosophie générale pour amener un ordre juste.
John Maynard Keynes,
F.A. Hayek.
Yeah, we're opposed.
We oppose each other philosophically.
In the same studio.
We've been going back and forth for a century.
I want to steer markets.
I want them set free.
There's a boom and bust cycle and good reason to fear it.
I've made my case, Freddie H. Listen up, can you hear it?
I'll begin in broad strokes, just like my friend Keynes. His theory conceals the mechanics to change. That simple equation, too much aggregation, ignores human action and motivation. Yet it continues as a justification for bailouts, payoffs, by poles with machinations. You provide them with cover to sell us a free lunch. Then all that we're left with is debt and a bunch. If you're living high on that cheap credit hog, don't look for a cure from the hair of the dog. Real savings come first if you want to invest. The market coordinates time with interest. Your focus on spending is pushing on thread. In the long run, my friend, it's your theory that's dead. So sorry there, buddy, if that sounds like invective. Prepare to get schooled in my
Austrian perspective.
We've been going back and forth for a century.
I want to steer markets.
I want them set free.
There's a boom and bust cycle and good reason to fear it.
Play low interest rates.
No, it's the animal spirit.
The place you should study isn't the bust. It's the boom that should make you feel leery. That's the thrust of my theory. The capital structure is key. Malinvestments wreck the economy. The boom gets started with an expansion of credit. The Fed sets rates low. Are you starting to get it? That new money is confused for real loanable funds. But it's just inflation that's driving the ones who...
C'est un rap que vous entendez de 2010 créé par John Papola et l'économiste Russ Roberts qui mettent en scène Keynes, incarné par Billy Scafuri, et Hayek, Adam Lustig, avec des arguments économiques à propos des cycles de croissance puis de récession, boom and bust. Donc voilà, on fait chanter les grands penseurs grâce à des compositeurs et des économistes très créatifs. Je vous remercie beaucoup Valérie Charol, Thierry Aymard et Patrick Savidan. Voici maintenant la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il vous parle de la précision, c'est le pourquoi du comment.
Pourquoi parle-t-on de science exacte ? L'exigence de précision est une exigence qui traverse toutes les pratiques des êtres humains dans leur rapport au monde, c'est-à-dire un monde où il y a non seulement où il n'y a pas d'ailleurs de généralité qui existe, mais seulement des êtres individuels qu'il faut parvenir à distinguer les uns des autres de la manière en effet la plus précise possible. La précision désignant le degré de singularité de nos actions et de nos connaissances. Il y a des connaissances plus ou moins individualisées. Peut-être qu'elles ne le sont jamais parfaitement. Peut-être que le degré de précision, la façon dont nous parlons d'un objet, peut descendre très 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 bas jusqu'aux particules élémentaires. Mais en dessous, peut-être que cela redevient confus. La mécanique quantique est une science précise du vague. Elle nous montre avec précision comment, au-delà de la précision mathématique de tel ou tel objet isolable, de telle ou telle particule, il faut être encore plus précis pour penser le confus. Et certaines logiques sont aussi des logiques du vague. Il y a donc un degré de précision qui définit les pratiques humaines, et pourtant on a comme modèle pour les atteindre des outils très précis, et c'est ce qu'on appelle les sciences exactes. L'exactitude des sciences est une manière de fonder la précision de nos connaissances sur cet outil bien précis qu'on appelle tout simplement les mathématiques. Les mathématiques sont une technique de la précision dans la mesure où elles ne sont pas seulement un ordre de connaissances elles-mêmes, avec leurs définitions, leurs axiomes qui permettent la plus grande rigueur, la plus grande précision, et où elles sont applicables au monde. C'est à travers la mesure mathématique, dans sa finesse, jusque dans la physique mathématique ou dans toutes les sciences de l'univers, qu'on a cette mesure de l'exactitude. Ce sont les mathématiques appliquées au monde. L'exactitude est donc le fondement même de la connaissance. Kant en avait fait un problème philosophique. Comment les mathématiques peuvent-elles s'appliquer au monde ? C'est la question du fondement de l'exactitude. Mais que l'exactitude fonctionne, personne n'en doute. Nous faisons plus ou moins confiance à nos horloges, à nos règles, à nos outils de mesure, à nos instruments de mécanique. Et nous avons raison, car d'elle dépend, de l'exactitude dépend toute notre vie. Mais l'exactitude est-elle le seul principe de la précision ? Elle est déjà très importante. Et ceux qui doutent de la vérité doutent moins de la précision. Ceux qui doutent des sciences douteront moins des sciences exactes. Car ils savent qu'on peut exiger l'exactitude. Et d'ailleurs, ces deux termes viennent de la même origine en latin. Mais il y a un autre sens de l'exactitude, ou plutôt il faut élargir l'exactitude. Certains ont voulu, comme Husserl, fondateur de la phénoménologie, distinguer les sciences de l'univers comme sciences exactes et la philosophie comme science rigoureuse. Que voulait-il dire par là ? Il voulait dire que tout n'est pas mathématique et que pourtant il faut de la précision même en dehors des mathématiques. Prenons par exemple la perception d'un objet, comme Merleau-Ponty parlait de la phénoménologie de la perception. Elle n'est pas entièrement calculable. Vous ne pouvez pas réduire ma perception du monde à des sensations calculables. Merleau-Ponty disait que c'était l'apparition d'un objet sur le fond d'un monde. Et pourtant, vous pouvez le décrire de manière rigoureuse. rigoureuse. Par exemple, justement, en disant comme lui, il n'y a pas d'objet sans un monde derrière. Il y a donc une précision applicable à tous les domaines, même à la subjectivité, même à la morale, même à la politique. Il faut non seulement de la science, mais de la science exacte et rigoureuse. C'est comme ça que vous la défendrez face à ceux qui veulent tout détruire.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Ludovic Auger. Elle a été préparée en particulier par Philippine Debellois et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Felpin, Chaï Magiboire, Armance Bourquin, Carla Michel et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.